Voilà, nous allons passer à la prédication de ce matin et je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, d'ouvrir leur Bible à Éphésiens au chapitre 2 et au verset 1. Et je lirai donc à partir du verset 1. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre, les uns et les autres, avec Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par sa grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc l'occasion, la raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Je suis l'équilibriste. Je tiens sur un fil. Chaque jour que Dieu fait, j'apprends à gérer mon vertige. J'affronte la brise, les tempêtes et les crises, comme ce clown triste en me maquillant un sourire. Contre vents et marées, je cherche la stabilité sur ce grand balancier qu'on appelle la vie. Dans ce magnifique cirque, je joue le trapéziste, je joue avec le risque de tomber dans l'oubli. Des peurs du vide, sur un fil, je suis debout et je résiste. Face à la pesanteur de la vie, oui, je suis l'équilibriste. Est-ce que vous savez qui chante ces paroles? Il y a au moins quelqu'un qui le sait, je sais, dans la salle. Je vais vous donner la réponse. C'est soprano. Eh bien, j'ai envie de dire que je suis assez d'accord avec lui. Parfois, nous sommes comme les équilibristes de cette chanson. Notre vie semble ne tenir qu'à un fil. Nous devons jongler entre notre vie familiale, notre vie professionnelle, les activités de loisirs, les activités associatives, la vie de l'Église, prendre du temps pour soi, mais aussi pour les autres. Oui, nous pouvons parfois avoir l'impression que nous sommes comme dans un vertige, tellement nous avons de choses à penser et à faire. Nous avons parfois l'impression que nous pouvons avancer au fil du rasoir, mais qu'il nous faut très peu de choses pour être déstabilisés, déséquilibrés dans notre vie. Alors parfois, au prix de grands efforts, nous parvenons à rectifier le tir et à retrouver, oui, une marche équilibrée. Mais souvent, trop souvent, nous perdons complètement l'équilibre, et alors l'atterrissage peut être douloureux. Comme Coyote dans les dessins animés, je ne sais pas si vous voyez. Parfois nous nous laissons déborder et nous perdons pied. Nous nous noyons dans un océan de désespoir, d'amertume ou bien de colère. Nous pouvons nous laisser déborder par nos émotions, nous laisser envahir par elles. Et en tant que chrétien, eh bien, il nous faut en plus arriver à vivre dans ce monde tout en n'étant pas de ce monde. Voilà bien un défi quotidien, parce que chaque jour, nous sommes confrontés à des situations où nous sommes appelés à trouver le juste équilibre, le juste positionnement dans notre vie, dans nos relations avec les autres ou bien dans les choix que nous sommes appelés à faire. Eh bien, nous allons voir dans ce passage d'Éphésiens que comment nous allons pouvoir arriver à trouver un équilibre dans notre vie. Dans quelques jours, nous allons célébrer l'ascension de Jésus. Après être ressuscité, Jésus est monté au ciel et il s'est assis à la droite du Père. C'est ce que Paul nous rappelle au verset 20 et 21 du chapitre 1 qui précède le passage que nous avons lu au début. Le Fils de Dieu est venu sur terre et il a accompli sa mission, à savoir racheter l'humanité du péché et de la mort. Sa résurrection effectuée, le travail de Jésus sur terre était fini en quelque sorte. D'un certain point de vue, je dis bien d'un certain point de vue, Jésus pouvait se reposer. Désormais, c'était à ses disciples, à nous donc, eh bien de continuer à annoncer la bonne nouvelle du salut et de continuer à aimer les autres. Mais c'est ici que les choses se corsent. Bien qu'ayant la foi, nous sommes néanmoins confrontés à l'échec. Certaines épreuves nous terrassent, nous laissent sans force. Et nous avons alors bien du mal à comprendre quelle est la différence entre bien une vie qui est chrétienne et une vie qui ne l'est pas finalement. Alors d'abord, il ne faut pas culpabiliser. Chrétien ou non, nous sommes tous humains. Et même si nous avons la foi et que le Saint-Esprit habite en nous, eh bien nous pouvons connaître des échecs, des impasses dans notre vie, et il peut nous arriver de nous écrouler. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes donc pas meilleurs que les autres. Mais la Bible, la parole de Dieu, nous donne des indications pour tâcher de comprendre comment arriver à avoir plus d'équilibre dans notre vie. Cet équilibre reste toujours fragile et il nous faudra constamment travailler à le garder. La grande différence s'opère dans la manière dont nous nous considérons en Dieu. Oui, dans la manière dont nous nous considérons en Dieu. Nous savons par cœur que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas à cause de nos mérites ou bien des bonnes œuvres que nous avons accomplies. Nous le savons, oui. C'est une faveur imméritée que Dieu nous a accordée. Christ est mort pour nous, à notre place, par amour pour nous, pour moi. Le salaire du péché qui s'est introduit dans le monde, c'est la mort et en particulier la séparation d'avec Dieu, qui est notre Créateur aimant, et nous étions donc voués à mourir, à être séparés de Dieu, mais Jésus, lui, est mort à notre place sur la croix. Non seulement il est mort, mais il est également ressuscité. Il a non seulement vaincu la mort pour nous, en nous donnant ainsi accès à nouveau à la relation avec Dieu, mais en plus il nous offre la vie en abondance, car Dieu nous a ressuscités ensemble. Déjà aujourd'hui, si nous avons réalisé, accepté dans notre vie ce que le Christ a fait pour nous à la croix, nous pouvons être ressuscités. Nous attendons la rédemption de notre corps, certes, mais intérieurement, spirituellement, nous sommes désormais à l'ère d'une vie nouvelle et éternelle. Mais le texte d'Éphésiens ajoute quelque chose d'essentiel, dont finalement nous parlons très peu en Église. Il nous est dit que Dieu nous a ressuscités ensemble, mais il nous a fait asseoir aussi ensemble avec le Christ dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir. Voilà une réalité qui nous échappe souvent et qui a pourtant des conséquences pratiques et merveilleuses. Alors ici, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le fait que Dieu nous a fait siéger ensemble dans les lieux célestes avec le Christ, ce qui fait appel à des notions d'autorité, de soumission, etc. Donc, ce qui m'intéresse ici ce matin, c'est le mouvement intérieur que produit le fait pour nous de nous asseoir. Le Christ s'est assis dans les lieux célestes. À la croix, Il a déclaré avant de mourir, « Tout est accompli ». Et dans ce « tout est accompli », il s'est assis dans les lieux célestes, dans une attitude quelque part de repos. De la même manière, nous qui sommes déjà morts et ressuscités avec lui dans les lieux célestes, eh bien, nous sommes appelés à nous asseoir avec le Christ. Ce qui devrait évoquer aussi pour nous, eh bien, une attitude de paix profonde, de repos. Ce n'est pas nous qui nous sommes assis, non, c'est Dieu qui nous a fait asseoir. Nous ayant sauvés par grâce et introduits à une vie nouvelle, eh bien, il nous a fait entrer dans le repos. Il nous offre la possibilité de nous reposer, de nos œuvres, de notre faire, et en même temps, de trouver la paix intérieure et profonde du cœur, de l'âme. Le problème, c'est que nous refusons de rester assis. Il faut dire que notre monde nous a tellement formatés à être dans l'action, dans le faire, bien que nous avons du mal à prendre le temps de vivre, à nous poser. Cette influence s'en ressent dans notre vie chrétienne également et dans notre vie en Église aussi. Nous avons tellement besoin d'être aimés, acceptés, reconnus, valorisés. Ou bien nous avons tellement besoin de nous rassurer sur la qualité de notre foi. Bref, les mécanismes psychologiques notamment, et plus ou moins complexes, eh bien, nous poussent tellement à faire que cela répond à un besoin fondamental que nous avons. Alors en Hébreux 4 et au verset 3, il nous est dit que nous entrons dans le repos de Dieu par la foi. Dieu nous offre le repos. Il nous fait asseoir. Mais il faut encore que nous accueillions cette réalité avec foi et que nous nous considérions comme tels en Christ. De la même façon que Paul nous invite en Romains 6 à nous identifier avec le Christ et à nous considérer comme morts et au péché et vivants pour Dieu, eh bien nous sommes appelés à nous voir comme assis dans les lieux célestes. Lorsque nous sommes debout, nos jambes supportent le poids de notre corps et nous allons nous fatiguer au fur et à mesure de la journée que nous sommes debout et petit à petit nous allons nous fatiguer, nous épuiser. Mais par contre, quand nous sommes assis sur une chaise ou sur notre canapé, eh bien le poids de notre corps ne repose plus sur nos jambes et cela est beaucoup moins fatigant pour nous. Nous pouvons nous reposer. Eh bien, c'est un peu la même chose. Pour différentes raisons, dans notre vie chrétienne, nous allons agir, nous allons nous agiter, tâcher d'accomplir tout un tas de choses. Mais pour y arriver, nous déployons beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et nous n'arrivons pas toujours en plus au résultat escompté. Et si nous n'y prenons pas garde, dans le cas où nous avons un tempérament de sauveur, eh bien, nous pouvons même finir par nous épuiser, y compris dans notre vie d'église. Par contre, quand nous réalisons que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes et entrer dans son repos, nous pouvons souffler. Nous pouvons réaliser que désormais nous n'avons rien à prouver à personne, y compris à Dieu. Jésus nous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 29. Par un acte de foi, nous nous asseyons alors dans les lieux célestes en déposant nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Désormais, nous comprenons que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons continuer dans notre vie, sur notre route, mais dans la dépendance de Dieu. C'est comme si nous étions désormais assis dans une voiture avec Jésus comme guide et le Saint-Esprit comme moteur. Quand nous réalisons ces choses, la vie devient moins difficile, car tout ne repose pas uniquement sur nous. Mais tout repose sur Dieu qui a le contrôle de tout dans notre vie et qui nous a créés pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, ainsi qu'il est dit au verset 10. Lorsque nous lui laissons la direction de notre vie, eh bien Dieu nous amène à vivre et à faire des choses que nous n'aurions peut-être même pas imaginées, mais qui s'avèrent en fait être faites pour nous. De même, il nous appelle des fois à rencontrer des gens que nous n'aurions jamais imaginé rencontrer. Mais en fait, il s'avère que nous sommes une source de bénédiction pour ces personnes-là et elles pour nous. Nous réalisons ainsi que lorsque nous laissons de côté, nous cessons de rester assis dans les lieux célestes, eh bien quelque part nous péchons, parce que nous ratons la cible, le but pour lequel Dieu nous a créés. Alors donc, pour résumer, la vie avec Dieu est donc faite de lâcher prise. Il nous faut arrêter de vouloir tout contrôler, faire avec nos propres forces jusqu'à épuisement. Il nous faut apprendre à faire confiance à Dieu et rester assis pour le laisser prendre le contrôle de notre vie et nous montrer ce qu'il attend de nous pour agir au moment opportun. Pour illustrer cela, je voudrais raconter une anecdote qui est assez connue, je pense que certains d'entre vous la connaissent. Il y a 2 siècles de cela, il y avait un célèbre équilibriste qui existait et qui parcourait le monde en donnant des spectacles durant lesquels il marchait sur un fil qui était tendu au-dessus de précipices vertigineux. Alors était-ce Jean-François Gravelet qu'on appelait le grand blondin ? C'est possible. En tout cas, cet équilibriste se rendit célèbre en marchant au-dessus de tout un tas de précipices, comme par exemple les chutes du Niagara entre les États-Unis et le Canada. Il était encouragé à chaque fois par une foule de gens qui se massaient de chaque côté du précipice et qui l'encourageaient. C'était un fin connaisseur de la psychologie humaine, tout autant qu'il était bon funambule. Et à chaque fois qu'il allait s'apprêter à marcher sur son fil, il haranguait les foules qui le regardaient marcher au-dessus du vide. Et il leur posait inlassablement cette même question avant de s'élancer. Croyez-vous que je puisse traverser sans tomber en marchant sur ce fil ? Immanquablement, la foule lui hurlait sa certitude. Oui, qu'il pouvait sans problème, bien sûr, réussir un tel exploit. Ce qu'il ne manquait pas de faire, devant leurs yeux ébahis. Tous croyaient sans l'ombre d'un doute qu'il réussirait l'incroyable défi qu'il se promettait de réaliser. Même si, il faut le dire, peut-être nombre de ces personnes venaient aussi assister au spectacle avec peut-être d'autres pensées dans leur cœur, comme celle de peut-être voir une chose moins agréable arriver comme une chute. La légende raconte qu'un jour, après avoir réalisé une traversée en marchant sur un fil avec son grand balancier dans les mains, il se proposa de refaire cette marche, mais en sens inverse, mais avec cette fois-ci une brouette qu'il pousserait devant lui. « Incroyable !» dit la foule. Alors, comme à sa accoutumée, il posa sa question. « Croyez-vous que je puisse le faire ?»« Oh oui, bien sûr !» répondit la masse des spectateurs, surexcités à l'idée qu'ils allaient assister à un événement extraordinaire. C'est alors que l'équilibriste posa une seconde question totalement inattendue. « Alors, si vous croyez que je peux le faire, qui monte avec moi dans la brouette ?» Le silence qui tomba brutalement sur la foule fut remarquable de contraste avec le bruit qui s'en élevait il y a à peine quelques secondes. Oui, la foule croyait qu'il pouvait le faire, mais pas au point de quand même placer leur vie entre ses mains. Ça, non. Eh bien, est-ce qu'il n'en est pas de même pour nous dans notre vie avec Dieu ? Notre marche dans notre vie ressemble à une marche sur un fil d'équilibriste, comme nous l'avons dit au début. Et souvent, nous essayons de traverser les fossés et les précipices de notre vie, comme les sommets d'ailleurs, par nos propres forces la plupart du temps. Nous tâchons de tout bien contrôler avec notre balancier, de bien rester en équilibre, mais nombreuses sont les fois où nous tombons. Heureusement que ça n'est pas comme là, que Dieu tend pour nous des filets qui nous empêchent de nous retrouver écroulés morts en bas de la falaise. Mais quand nous chutons, eh bien alors oui, nous remercions le Seigneur avec joie et nous lui promettons que oui, désormais nous allons arrêter de faire les choses avec nos propres forces, nous avons compris le message et oui, on va lui remettre tout. Et puis très rapidement, eh bien les mauvaises habitudes reviennent. Et finalement, nous repartons dans notre fer. J'ai été frappé dans le stage que j'ai fait récemment, là, ces derniers jours à Paris, en naturopathie. Il y avait deux ou trois participants qui avaient fait un burn-out. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec ces personnes-là dans des entretiens de simulation, de consultation. J'ai été frappé de voir que ces personnes qui avaient eu un burn-out et qui auraient donc dû comprendre la leçon de l'épuisement dans leur vie personnelle ou professionnelle, ces personnes-là, à peine relevées, eh bien, elles étaient reparties dans le fer. Elles étaient de nouveau débordées de toutes les façons. Mais c'était plus fort qu'elles. Elles n'y arrivaient pas. Alors, ce matin, ma question, finalement, elle est aussi sérieuse que je le reconnais incongrue. Quand allons-nous nous décider à monter dans la brouette de Dieu ? Le funambule de notre histoire eut finalement un candidat qui monta avec lui dans la brouette. Et ensemble, ils traversèrent le précipice. Cette personne, raconte la légende, c'était sa mère, qui avait tellement confiance en son fils qu'elle avait décidé de placer sa vie entre ses mains. Une autre fois, la légende raconte que ce fut son impresario qu'il prit sur son dos pour traverser le gouffre. Ce dernier avait investi tout son argent sur lui et il lui faisait entièrement confiance. Et il n'a eu aucune hésitation à faire la même chose, à placer sa vie entre ses mains. Et vous ? Et moi ? Sommes-nous prêts à placer toute notre vie entre les mains du Fils de Dieu, notre Sauveur ? À nous asseoir dans la brouette de Dieu et à nous déplacer avec lui, même au-dessus des pires précipices de notre vie ? Aujourd'hui, il nous pose cette question d'amour. Me fais-tu confiance ?